Salut la gang, bienvenue à ce 13e épisode de Femmes de fer. C'est le temps de parler de nous, de notre image, de notre perception de notre corps, de notre discours envers la diversité corporelle, de notre impact sur les prochaines générations. Aujourd'hui, je reçois la psychologue Dr. Stéphanie Léonard, qui est spécialisée dans les troubles alimentaires et qui a lancé le magnifique projet « Bien dans mon corps ». Disons que c'est une discussion qui soulève les passions chez moi et j'espère qu'elle va vous allumer également. On l'écoute dès maintenant.
Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Momini, rédactrice, productrice et mompreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go!
Bonjour Stéphanie!
Bonjour Sophie, comment ça va?
Ça va bien toi?
Ça va super bien.
Merci tellement de prendre le temps de faire cette entrevue aujourd'hui Stéphanie. C'est pour moi un honneur de te parler parce que je crois qu'aujourd'hui on va parler d'un énorme sujet très très important personnellement pour moi, important aussi pour les gens qui nous écoutent et pour tout le monde. Je crois que c'est important qu'on en parle le plus souvent possible. C'est aussi important parce que c'est quelqu'un qui t'a nominé, c'est une femme de fer que j'ai eue sur le podcast qui t'a nominée pour que je t'aie en entrevue. Et ça,
j'étais vraiment touchée.
Je suis vraiment contente pour ne pas la nommer. C'est Joanie Pietracupa que j'ai eue en entrevue il y a quelques podcasts déjà, si ça vous intéresse d'aller l'écouter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Stéphanie, peut-être juste m'expliquer qu'est-ce que tu fais en général.
Je suis psychologue spécialisée en troubles de l'alimentation, en problèmes reliés à l'image corporelle. Mais là, ça fait 18 ans que je fais de la pratique privée où j'ai travaillé en milieu hospitalier aussi. Moi, je vois toujours des personnes dans mon cabinet privé qui ont des enjeux reliés à ça. Mais ce que j'ai commencé à faire il y a une dizaine d'années, c'est beaucoup de médias aussi. Donc, aller à la radio, à la télé, écrire et tout ça. Trouver un grand plaisir, je pense que ça répondait à un certain besoin de ma personnalité aussi, de faire une espèce de... Moi, je vois ça comme de la psychoéducation, là. Donc, je me suis retrouvée à faire ça. Et puis, j'ai fondé un organisme qui s'appelle Bien avec mon corps qu'on a lancé en avril dernier qui fait la promotion d'une image corporelle saine chez les jeunes. Ça résume mal ma vie.
Pourquoi, au départ, tu as fait plusieurs études, j'imagine, pour arriver où est-ce que tu es présentement. Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce sujet-là? Est-ce que, dès que tu étais jeune, tu t'es dit, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans? Ou ça s'est développé petit à petit dans ta vie, ce besoin-là d'approfondir sur ce sujet-là?
Sur le sujet, en fait, c'était pas clair pour moi, dans le sens que quand j'ai commencé mon bac en psychologie, on n'a pas tant besoin de se trouver, en fait, un sujet, donc c'est assez général. Mais après ça, j'ai développé un intérêt vraiment pour les troubles alimentaires. Mais là, il faut se ramener à l'époque, là, parce que c'est quand même pas récent, mais il n'y avait pas grand-chose qui était fait là-dessus. Alors ça, pour moi, je suis une fille de défi. Je trouvais ça intéressant. Je me disais, c'est drôle, il n'y a rien. Et en apprenant un peu plus sur cette problématique-là, moi, je n'ai pas souffert d'un trouble alimentaire, mais je suis allée dans une école secondaire de filles uniquement. Puis à l'époque, en fait, j'avais observé des comportements chez certaines de mes copines que je pouvais pas savoir qui était problématique. Je trouvais ça un peu bizarre, là, tu sais, comme à un moment donné, pas assez manger, s'évanouir dans le cours de gym. Ouais. Une sorte de comportement que j'ai compris par la suite étaient des comportements, en fait, probablement reliés à un trouble alimentaire. Ouais. Quand j'ai fait le lien, tout ça, je me suis dit, aïe, aïe, qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, j'ai pas développé ça, puis certaines d'autres de mes copines non plus, mais que certaines filles, pour elles, ça a vraiment été un enjeu. Alors ça, ça a piqué comme ma curiosité parce que là, j'ai compris qu'il s'était passé des choses près de moi que j'avais pas su identifier, mais avec le recul, je voyais probablement plus ce que c'était pour de vrai, combiné au fait que c'était un domaine qui avait beaucoup de défis à relever parce que justement, il n'y avait pas beaucoup de gens. Tu sais, je regardais autour de moi où, si je voulais me spécialiser dans ça, où je devais aller pour me faire former comme du monde, puis tout ça, il n'y avait pas, tu sais, ça ne court pas les rues. Fait que ça, ça a vraiment été, je pense, qui a été un coup de cœur. Puis c'est une passion que je ne peux pas vraiment expliquer. Je me fais souvent poser cette question-là, peut-être parce que je suis quelqu'un qui adore bien manger, avoir du plaisir, tout ça. Fait que je trouve que quelqu'un qui souffre d'un trouble qui est relié soit à son corps ou au contrôle même de son alimentation, ça a un impact quotidien, plusieurs fois par jour. C'est vraiment envahissant. Fait que ça venait beaucoup me chercher. Fait que ça a été ce qui m'a un peu amené tous ces facteurs-là mélangés ensemble à me spécialiser dans ce domaine. En fait.
Oui, c'est spécial que tu parles de ça parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais peut-être, je crois que c'était au secondaire, ils me faisaient écouter un film sur l'anorexie.
La poésie.
La peau et les os, exactement, chercher le titre. Et je pense que c'est la seule information qui existait sur le sujet. Peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est la seule chose que moi, j'ai vue sur le sujet quand j'étais jeune, que j'entendais parler. Et je pense que, premièrement, ça c'était très choquant. Ça traumatisait beaucoup de monde en classe. Et on en parlait un peu, mais pas tant après. Ça, je trouvais pas que ça amenait des discussions, peut-être un peu avec le professeur, mais pas nécessairement en groupe ou avec les gens autour de nous, parce qu'on disait, ben là, on n'est pas de même, puis le fait que ça finissait là. Tu sais, c'était comme c'était tellement poussé à l'extrême que je pense que c'était important qu'on soit au courant, mais j'ai l'impression que la discussion était peut-être mal amenée autour de ce sujet-là, puis on l'écoutait peut-être même plus qu'une fois durant notre secondaire. Fait que quand on le revoyait, on était comme, ah ouais, OK, mais je pense que c'était peut-être les débuts aussi d'approcher ce genre de sujet-là quand on était jeune.
Bien, en fait, je pense que c'est un film précurseur qui a eu beaucoup d'impact, mais je pense par contre que c'était une belle idée de vouloir le diffuser dans les écoles pour que les jeunes en prennent conscience. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on avait donné les outils aux enseignants, aux éducateurs pour pouvoir créer un espace pour qu'il y ait une discussion. Tu sais, c'est des troubles qui, à ce moment-là, quand le film est sorti, dont on parlait pas tant, qui étaient quand même remplis de plein de stéréotypes qu'on pouvait avoir face à cette problématique-là. Oui. Mais j'ai l'impression que c'était comme un gros sujet et un peu choquant, effectivement, parce que le film est très cru, montre vraiment ce que c'est, qui a été tourné à l'hôpital Douglas, d'ailleurs, où j'ai travaillé plusieurs années. Mais par contre, c'est qu'après ça, comme tu dis, tu fais quoi avec ça? Alors, je pense que là, en tout cas, ce que j'espère, c'est que maintenant, plusieurs années plus tard, on est définitivement plus outillés, je pense, pour essayer d'encadrer quel genre de discussion devrait-on avoir quand on présente un film comme ça. Parce qu'il y a plein de pistes, là, mais c'est vrai que c'était comme chargé, mettons, comme film, là.
Oui. Alors toi, dans ta vie présentement, tu fais de la clinique, tu travailles beaucoup avec des jeunes ou en général avec des adultes qui ont des troubles alimentaires?
Oui, moi, c'est troubles alimentaires et vraiment, ça s'est vraiment élargi naturellement avec le temps. Oui, troubles alimentaires, mais personnes qui ont des enjeux avec l'image corporelle, qui ont des obsessions par rapport à leur corps, par rapport à leur alimentation. Je traite principalement des adultes. C'est sûr que je vois aussi des adolescents très près du début de l'âge adulte. Ce que je fais pas, en fait, c'est des jeunes adolescents où, en fait, quand on fait une psychothérapie avec eux, ils sont plus jeunes, faut impliquer la famille, parce qu'évidemment, ces adolescents-là vivent dans des maisons avec d'autres personnes et ne gèrent pas l'alimentation, ne gèrent pas tout ça. Mais je fais principalement population adulte, un travail qui me passionne beaucoup puis qui me touche beaucoup aussi parce que c'est accompagner des gens qui vivent une souffrance, comme je disais tout à l'heure, qui est très très quotidienne et omniprésente. Je dis toujours comme exemple à mes patients, si vous veniez me voir pour une phobie du métro parce que vous n'étiez pas capable d'utiliser ce transport en commun-là, bon, ça, vous pourriez vous dire, j'ai le goût de vaincre ça puis surmonter ça. Mais mettons que vous vivez une période ici, je pourrais vous dire, pendant cette période-là, laissons faire, là, on n'ira pas s'exposer, on se bousculera pas, on va mettre ça sur la tablette, on y travaillera plus tard. Mais l'alimentation, le corps, c'est un contact continuel, on peut pas faire ça.
Non.
Donc, il y a pas de pause. Donc, quand quelqu'un souffre d'une problématique comme ça, c'est troublant. Puis on sait, en fait, que les troubles alimentaires, de tous les troubles psychologiques, sont les troubles qui ont le taux de mortalité le plus élevé.
Ouais,
ça va jusqu'à 20 %, c'est entre 10 à 20 % parce qu'il y a des conséquences sur la santé physique des gens qui ont un trouble alimentaire sévère, donc problématiques cardiaques entre autres et tout ça. Donc, tu sais, il y a quand même des grands enjeux que c'est des troubles qui touchent beaucoup de sphères dans la vie d'une personne.
Mais c'est pas nécessairement parce qu'une personne se laisse mourir de faim, là. C'est parce que ça va aller donner des problèmes au niveau corporel.
C'est ça.
Qu'on n'aurait pas pensé nécessairement, mais que c'est relié au fait qu'il y a un trouble alimentaire.
Oui, exactement.
Pour toi, tu as ressenti le besoin quand même de lancer dernièrement le projet Bien avec mon corps. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Parce que moi, je trouve ça super stimulant de voir ça à l'ère des médias sociaux, à l'ère d'Internet, où on a tellement accès à 30 000 informations, mais qu'un moment donné, on sait plus où regarder, on sait plus qui suivre, on sait plus où parler finalement de ça. Et je trouve ça intéressant que tu aies décidé de lancer ça pour les jeunes en particulier.
Oui, en fait, moi, c'est que comme je disais tantôt, moi, les personnes qui viennent me voir, donc c'est une population adulte. Et c'est intéressant de voir que le dénominateur commun de la majorité de ces personnes-là dans leur histoire personnelle, c'est des difficultés qui ont débuté à l'adolescence, disons, ou jeune. L'histoire souvent se déroule que, bon, on fait des liens avec ce qui a pu se passer quand ces gens-là étaient plus jeunes, mais visiblement, il y avait un manque d'outils, d'encadrement, de façon de les aider, ce qui fait que souvent, ces difficultés-là se sont aggravées, ont dégénéré, puis ont ont continué dans le fond dans le temps pour que ces personnes-là soient aux prises encore à l'âge adulte avec des difficultés. Moi, ça me dérangeait beaucoup parce que il y a certains organismes comme ANEB Québec, par exemple, oui. qui viennent en aide aux gens qui ont un trouble alimentaire et à leurs proches qui leur offrent du soutien. Moi, je me disais, je trouvais qu'on n'avait pas grand-chose en amont de ça. Donc, un peu en prévention précoce, c'était difficile parce qu'en voulant cibler les jeunes, on a fait un focus group, ça c'était vraiment super intéressant, avec 10 jeunes à qui on leur a dit, là, vous me dites la vérité, là, ils étaient âgés entre 12 et 18 ans, pour un peu savoir, prendre le pouls de ce qu'ils aimaient, tu sais, comment, si on veut leur transmettre des informations, comment on peut s'y prendre, qu'est-ce qui les allumait, qu'est-ce qui au contraire là, les rebutait. Mm-hmm. On s'est vite rendu compte que, tu sais, même si on écrivait le meilleur livre, si on faisait le plus beau pamphlet, ça ne fonctionnerait pas. Alors, c'est là... où on en est venu à l'idée qu'il fallait que ça passe par le médium, les médiums que les jeunes priorisent pour pouvoir les rejoindre. Donc, ça s'est avéré à dire, bon, ben, il faut qu'on passe par, oui, un site Internet qui vient à être un peu comme où on archive tout notre contenu, mais la porte d'entrée se fait vraiment par les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram principalement. Puis là, ben, on s'est dit, ma petite équipe et moi, je me suis dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir rejoindre les jeunes? Puis on s'est dit, ben, on va le faire à travers du contenu, où on va passer, oui, des messages, mais un contenu qu'on va essayer d'avoir punché, un peu irrévérencieux par moment. Mm-hmm. Oui, du texte, mais des capsules vidéo surtout, parce que ça, c'est ce qui les interpelle le plus. Ouais. On va essayer de s'allier avec des gens connus qui vont vouloir justement participer à des petites capsules ou des vox pop ou qu'importe. Mm-hmm. Et on va surtout impliquer les jeunes dans notre contenu. Donc, à chaque fois qu'on fait une capsule vidéo, je me suis dit, je veux que ce soit les jeunes qui participent. On essaie de leur poser des questions, ils nous répondent et tout ça. Donc, c'est venu de cette idée-là de vouloir, en fait, offrir, je dis ça en toute modestie, là, quelque chose que je sentais qui n'existait pas, c'est-à-dire oui. Une plateforme où il peut avoir du contenu le fun, tu sais, pas moralisateur, mais avec un bon fond de psychoéducation un oui. peu... je veux pas dire maquiller, mais tu sais, je pense qu'on est vraiment capable de passer un message, puis ça peut oui. être intéressant à écouter sans que ça ait l'air oui. académique. On a lancé la plateforme web en avril dernier. On est chanceux d'avoir Sophie Grégoire Trudeau comme alliée qui nous soutient mm-hmm. beaucoup, puis tout ça. Et beaucoup de gens dans la communauté aussi. Donc, on est à nos débuts, là, parce que ça fait pas très, très longtemps. Mm-hmm. Mais ça va super bien. Il y a vraiment un grand besoin. Ça m'a fait beaucoup plaisir de voir qu'on répondait à un besoin, en fait. Moi, je vais dans les écoles aussi, parce que ça, c'est un service qu'on offre avec notre organisme, c'est des ateliers dans les écoles. J'adore faire ça. J'en faisais avant, mais là, on dirait que c'est vraiment rendu concret. C'est-à-dire que j'ai monté des ateliers dépendamment. Là, il y a des angles qu'on peut offrir. Puis, aller à la rencontre des jeunes, ils ont tellement de choses à dire parce que oui. moi, je fais des... Tu sais, j'ai créé des ateliers qui sont interactifs. Moi, c'est important pour moi. Mais là, des fois, je suis comme, OK, c'est que c'est trop interactif, mais c'est fabuleux. Là, je ressors de là, je suis remplie d'émotions et super touchée. Ils ont beaucoup de choses à dire, ils en ont beaucoup sur le cœur. Oui. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi quand je vais à la rencontre des jeunes. Je trippe réellement, je trouve ça vraiment chouette.
Et donc, tu crois fortement avec ce projet-là que ça peut aider aux adultes plus tard à avoir des outils, de donner des outils à ces jeunes-là pour qu'ils deviennent des adultes qui auront peut-être moins de troubles ou qui vont être peut-être plus conscients de ce qui se passe de ce côté-là pour moins être à la merci de leurs problèmes et de leurs vulnérabilités peut-être?
C'est sûr que nous, avec Bien avec mon corps, notre public cible est principalement les jeunes, mais on a aussi ajouté les adultes qui les entourent. Parce que le principe derrière ça, c'est que tous ces jeunes-là évoluent avec des parents, des enseignants, des éducateurs, tout ça. Donc, on veut aussi que, justement, ça fasse écho un peu plus large que ouais. juste le jeune. C'est de sensibiliser vraiment à la base au fait qu'on est carrément obsédé avec le contrôle du corps, l'apparence physique, et de prendre conscience des répercussions que ça a. Oui. Donc, un des aspects super importants pour nous, c'est de favoriser un certain scepticisme chez les jeunes, tu sais, de leur en injecter une petite dose pour que ce à quoi ils sont exposés sur les réseaux sociaux, qui n'est pas toujours bienveillant là, oui. et positif et sain pour l'estime de soi et l'image corporelle, qui développe un œil différent. Mm-hmm. Puis aussi, de les encourager peut-être à consommer du contenu autant que des produits, que des marques, qui oui. vont faire qu'ils vont se sentir mieux. Oui. Puis d'ouvrir les débats, puis essayer de démystifier tous les mythes qu'on peut avoir autour de ça.
De remettre en question les choses. Je pense que c'est ce qui est important en ce moment quand on voit que ce soit une nouvelle ou quelque chose qu'on voit passer sur les médias sociaux, c'est de toujours un peu remettre en question qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on écoute, la source vient de où. Mm-hmm. Puis on est tellement bombardé de choses que des fois, on passe vite là-dessus et on gobe ça, comme on dit, comme si c'était la vérité. Autant mm-hmm. les images que les textes, que les informations. Puis un moment donné, on s'en rend pas compte, mais ça nous impacte énormément. Puis vraiment. On sait même plus où on a vu cette information-là, mais on se dit « Ah oui, ça a l'air que telle chose. » Puis si t'en parles souvent à un spécialiste du domaine que mm-hmm. dont tu parles, la personne va dire ben non, mais c'est pas vrai. Où t'as pris ça? Puis là, t'es comme, ah, ben j'ai vu ça quelque part. Puis ça déboule beaucoup, beaucoup. On dirait que mm-hmm. les sources ne sont plus vraiment véridiques. Puis c'est ça le problème un peu, entre guillemets, des médias sociaux en ce moment. Mais je pense que autant ce genre de contenu malveillant existe, autant je pense que la voix comme celle que tu as décidé de fonder avec mon corps est importante et doit avoir une aussi grande place pour être capable de remettre en question les choses.
Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on essaie, c'est de pas démoniser les réseaux sociaux, mais non. Parce qu'il y a quand même beaucoup de données qui nous confirment le fait. Il y a des études qui se sont penchées là-dessus. Il y a des aspects très positifs des réseaux sociaux. On peut les utiliser à bon escient. Oui. Donc, moi, c'était vraiment ça, ce que j'avais envie de faire, en fait. Mais je veux dire, c'est pas vrai que c'est juste négatif, au contraire. C'est sûr que là, on n'est pas soutenu par une industrie. Tu sais, l'industrie de l'amaigrissement ou de l'obsession vers le corps, c'est une industrie qui est hyper lucrative. On parle de oui. 60 milliards de dollars par année en Amérique du Nord. Donc, c'est sûr, c'est une industrie qui va beaucoup pousser le contenu moins bienveillant, là, dont on parlait tantôt. Oui. Mais je me décourage pas parce que ce que je vois depuis les 5-10 dernières années, c'est une progression. On essaie, je pense que les gens sont avides de contenu positif. Ils ont le goût d'en avoir. Fait oui. qu'il faut essayer d'en créer. Mais c'est sûr qu'on a moins de moyens que toute l'industrie qui capitalise sur notre inconfort avec notre corps, puis qui veut nous vendre des trucs supposément pour qu'on se sente mieux. C'est,
ouais.
Je dis bien supposément.
Oui, oui.
Vous voyez pas, mais je fais supposément.
Supposément, entre guillemets.
Oui, vraiment.
J'espère que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vous invite à consulter le site web de Femmes de fer, où je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel vous avez 5 astuces pour savoir comment bâtir votre liste de courriels. Alors, si vous voulez pousser le sujet encore plus loin pour vous aider à bâtir votre entreprise, allez sur sophiem.ca/femmes-de-fer-podcast.
Bon, ben alors, c'est ma job à moi de te mettre de l'avant et d'en parler le plus possible, finalement, de ces moyens-là, de ces informations-là. D'ailleurs, l'Instagram est super intéressant, il y a toujours des super belles informations. Il y a un dernier post que vous avez mis de l'avant au niveau de la pesée, de la balance, oui. À quel point on devrait peut-être arrêter de se peser, que ça devrait pas faire partie de notre vie. Et moi, ça m'a énormément touchée, puis je veux vraiment rentrer dans ce sujet-là parce que moi, quand j'étais plus jeune, ado, même au début de quand j'étais adulte, la balance avait une très grande présence dans ma vie. Pas parce que je sais même pas ça vient de où, en fait. C'était juste pour mm-hmm. dire, bon, ben, je suis en santé, je vais me peser. On dirait que ça ouais. faisait partie de tout ça dans ma tête, puis je sais même pas pourquoi. Puis là, je me disais, ben, si je prends du poids, je suis pas en santé. Puis là, si je prenais trop de poids, je disais, OK, fait que là, qu'est-ce que je fais? Faut que je mange moins. Puis bon, ça remonte peut-être à loin où on avait moins d'informations aussi de ce côté-là. Et je suis tombée sur une statistique vraiment intéressante que 90% des femmes n'aiment pas leur corps. Mm-hmm. Et moi, ça, c'est pas la première fois, ben, je l'ai repris parce qu'on fait l'entrevue aujourd'hui, mais ça fait vraiment longtemps que je lis cette statistique-là en tête parce que moi, dans mon ancienne vie, je travaillais au magazine Clin d'œil et on a lancé le sujet, le thème de la diversité corporelle. Mm-hmm. Dans un moment où c'était vraiment un sujet très chaud et que on avait décidé de se lancer là-dedans parce qu'on se disait ben faut en parler. Puis on est ouais. les premiers au niveau de l'image, au niveau des mannequins, au niveau justement de l'industrie de la beauté, tout ça, faut qu'on soit conséquent avec ce qu'on fait. Puis il y a eu des offensives qu'on a faites qui étaient peut-être un peu ratées parce que c'était dans les débuts, on savait pas comment approcher mm-hmm. ça. Puis il y en a d'autres, je pense qu'on a très bien fait puis que c'était important pour nous. D'ailleurs, on soutenait à NEB. Moi, j'ai fait mm-hmm. partie aussi de ce mouvement-là. Pour nous, c'était super important. J'en parle parce que c'est vraiment, en tant que femme, un sujet ultra important mm-hmm. et que c'est un combat constant dans ma vie et je suis certaine dans la vie de beaucoup de femmes qui nous écoutent aussi.
Oui.
Que je ressouligne encore, 90% des femmes n'aiment pas leur corps. Mm-hmm. Je trouve ça lourd comme statistique.
Puis en fait, c'est presque tout le monde. Puis moi, je mets toujours beaucoup en lumière le paradoxe qu'on n'a jamais Là, on est en 2019 parce qu'en 2020, on n'a jamais eu autant de moyens, encore une fois, supposément, pour se sentir mieux, être plus belle. Puis les statistiques n'ont jamais été aussi élevées d'inconfort par rapport à son corps. Donc, juste ça, je trouve que c'est quelque chose de très problématique. Puis quand les gens, on leur fait réaliser ça, ils sont comme, ouais, c'est vrai dans le fond. Tu sais, j'ai passé des années à essayer de me sentir mieux ou de me critiquer, puis d'essayer par toutes sortes de façons. Ça fonctionne pas. Donc, si ça fonctionne pas, est-ce qu'on peut se dire qu'on devrait essayer autre chose? Donc, ça, je trouve que oui, effectivement, on avait parlé de la pesée. En fait, c'est une de nos collaboratrices, Flore Tellier, qui a parlé de, elle parle aux jeunes. Donc, ce qui était très intéressant, que moi, j'aime beaucoup, justement, quand les gens s'approprient un sujet qui, évidemment, touche beaucoup, beaucoup de gens. Moi, je dis toujours, un pèse-personne, ça sert à rien. Je veux dire, moi, j'en ai pas chez moi. Je vois pas pourquoi on en aurait. Ce chiffre-là détermine rien. Ce qui va déterminer notre santé, si on veut y aller avec le dossier santé, c'est beaucoup plus nos comportements que ce chiffre-là, qui est très aléatoire et puis qui ne reflète en rien ni notre beauté ni notre santé. Là, fait que ça, faut déconstruire ça parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça devient vite obsessionnel. Puis ça, c'est vraiment fascinant à voir comment aussitôt que quelqu'un commence à se peser, ben c'est comme le lendemain, il voit une différence. Tu sais, on a des changements corporels quotidiens, inexplicables, rétention d'eau, hormones, es-tu allé aux toilettes, t'es pas allé aux toilettes, c'est aussi simple que ça, je l'explique comme ça à mes patients aussi. Donc, c'est sûr que tu peux te peser le lendemain, puis tu vois une différence. Naturellement, ton cerveau va vouloir expliquer cette différence-là, va vouloir la rectifier. Ça devient vraiment obsessionnel. L'idéal, c'est de ne pas avoir de ne pas insérer ça dans sa vie. Je pense que c'est pas ça qui fait qu'on se sent bien. C'est pas un chiffre.
Et en tant que psychologue, est-ce que t'as une frustration face à l'image qu'on met de l'avant dans la société de la femme? Dans le sens que, tu sais, j'imagine, quand on traite des gens qui ont de la difficulté avec leur image corporelle, et ensuite, ils sortent du bureau, et ils sont bombardés tout de suite de publicités, de revues, de discussions, de Instagram, d'images partout. Mm-hmm. Est-ce que c'est frustrant de toujours être obligé de se battre contre ça ou ben ça fait partie de la vie puis il faut juste l'affronter?
Ben moi j'essaie de chez moi ça suscite souvent une colère, même, je dirais, je peux pas dire juste une irritation parce que puis je suis maman puis j'ai une fille adolescente puis j'ai un garçon qui a 10 ans aussi puis donc, tu sais, je suis encore peut-être plus consciente et je me disais, ça me touche de près. T'sais, sinon, mes enfants grandissent dans cette ère-là. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Oui. C'est sûr que j'essaie de canaliser cette colère-là en une espèce d'énergie pour outiller. Tu sais, je veux pas dire que j'ai décroché l'idée que la société puisse changer puis que les médias puissent changer puis tout ça, mais à prime abord, ce que je veux, c'est outiller les gens pour peut-être avoir un buffer entre eux et toute cette pression-là, d'une part. Puis c'est sûr que j'essaie d'encourager et de mettre de l'avant tous les organismes, marques, médias dans la communauté autour de nous qui, visiblement, ont cette mission-là de vouloir être différents en étant plus dans la diversité corporelle, la réalité corporelle aussi. J'essaie, parce que oui, ça me fâche. C'est sûr que ça me fâche parce que c'est mon quotidien. Fait que c'est sûr qu'en travaillant et en voyant la souffrance des gens, je suis peut-être plus... mes amis te diraient que je peux être intense dans mes réactions.
Je peux comprendre.
Autour d'un bon verre de vin, un souper, des fois, si je vois, si on parle d'une pub ou de quelque chose dans l'actualité, je vais me permettre de pogner les nerfs. Je pense que c'est bien correct. Mais dans ma vie de tous les jours et dans mes projets, j'essaie surtout de canaliser ça en une énergie de vouloir vraiment, très modestement, je dis ça, mais contribuer à faire changer les choses. T'sais.
Quel serait le meilleur outil pour avoir un petit buffer dans la vie en général, ça serait quoi?
La première chose, c'est de moins consommer les médiums qui nous livrent ça. C'est dommage à dire, mais on le sait, on a tous un peu ce problème-là. On est beaucoup sur les réseaux sociaux, que ça soit au départ pour se divertir. À partir du moment où on se divertit, on est quand même bombardé de toutes sortes de messages. Puis après ça, ce que je trouve beaucoup, c'est intéressant, en fait, c'est de trouver des comptes Instagram, des pages Facebook, des personnalités, des émissions. On a d'ailleurs Joanie Pitakupa qui nous avait parlé des séries télé qui sont très body positive et feel good. C'est un article qui se retrouve d'ailleurs sur notre site. De consommer des choses qui vont avoir un message positif, c'est ça la meilleure arme, je pense. C'est que c'est de vouloir s'imprégner de personnes, comme je dis, autant de produits et de messages qui vont nous faire du bien. Parce qu'on peut pas, j'ai pas abandonné, mais on peut pas demander à toutes ces personnes qui sont peut-être moins bienveillantes puis qui ont pas nécessairement une belle intention, qui nous présentent des choses qui nous font sentir, là, on se dévalorise, on se compare, on se sent pas bien. Mm-hmm. Puis je dirais que nous, dans notre petite communauté, dans notre vie, de nous poser des gestes, arrêter d'avoir un discours négatif envers nous-mêmes, de se critiquer, et avoir des gestes bienveillants, donc pas se priver de choses qu'on aime quand on a le goût de manger quelque chose, de pas faire de régime, de plus penser à ce qui nous fait du bien. Moi, j'aime beaucoup plus ce filon-là qui est très positif, là. Puis il y en a des comptes, là, qui sont des comptes Instagram qui sont fabuleux, inspirants au maximum.
Est-ce que t'en as en tête, là, vite comme ça?
Vite comme ça, c'est dur. Ben, Joanie, c'est une Pietra Kupa, son Instagram est assez cool. Mais justement.
On a Élie Lemieux aussi.
Élie Lemieux, Jessica Prudencio. Il y a Carl Hardy chez les garçons aussi. Jordan Dupuis qui est diversité aussi. Donc, il y a vraiment des choses qu'on peut essayer d'accrocher à de ce qu'on consomme à chaque jour, puis ça, je suis convaincue que ça fait une différence.
Moi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, si je reviens au début de mon temps d'adulte, comme je disais, j'avais l'obsession de la balance où je n'étais pas capable de bien comprendre comment gérer ces émotions-là. Et au fil du temps, premièrement, moi, j'ai fait un ménage dans mon Instagram. J'ai enlevé beaucoup de comptes négatifs qui m'amenaient, pas nécessairement parce que c'est des mauvaises personnes, juste parce que ça m'amenait à me comparer sur plusieurs points dans ma vie, là, pas juste au niveau de la beauté, au niveau de la bouffe, mais je me comparais constamment et ça, mon Dieu, que ça minait ma tête, là, ça marchait pas du tout. Donc, moi, j'ai fait un grand ménage là-dessus. Puis, de l'autre côté, puis je suis extrêmement chanceuse, j'en parle souvent, mais j'ai un mari incroyable qui est dans le domaine de la santé. En fait, lui, il a un gym au centre-ville, mais lui, son objectif, c'est pas de faire perdre du poids à ses clients, c'est vraiment de les amener à être en santé. C'est des gens ordinaire entre guillemets qui veulent juste être en santé, puis c'est vraiment ça son objectif. Puis lui, il m'a amené à avoir exactement ce discours-là au niveau de la nourriture, au niveau de l'activité physique, même que c'est lui qui m'a dit bye bye la balance, on s'en fout de ça, entraîne-toi, on est bien, on va s'amuser aujourd'hui, on se fait une bonne bouffe, puis on est entre amis, on a du plaisir, tu sais, j'aime tellement la bouffe que un moment donné, c'était rendu ben non, mais je peux pas manger mon beigne parce que c'est pas, tu sais, c'est tellement loin.
Oui.
Mais moi, j'ai redécouvert ça depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup. Mais je suis vraiment chanceuse d'avoir un homme dans ma vie qui m'a ramené vers ce chemin-là parce que j'aime tellement la bouffe que maintenant, je peux plus m'en passer. Fait que, je pense que c'est de s'entourer des personnes positives. Mais c'est un grand projet. C'est difficile d'en arriver à ça dans sa vie. De faire ce cheminement-là. Mais en tout cas, moi, je pousse beaucoup les gens à se questionner, puis à toujours remettre les choses en question, puis petit à petit, on fait ce genre de ménage-là, j'ai l'impression.
T'as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Je veux en glisser un mot sur la journée qui fait du bien. Je sais que tu vas participer à cette journée-là.
Oui.
Peut-être que tu peux juste m'en parler un peu. C'est quoi le projet autour de ça?
En fait, c'est un projet qui a été créé par Hubert Cormier puis Eve Martel. Donc, c'est une journée, je trouve l'initiative extraordinaire. Donc, c'est une journée vraiment sur tout le bien-être. Donc, il y a différents ateliers dans la journée. Moi, je vais co-animer un panel en fin de journée sur les selfies, la confiance en soi avec Jessica Prudencio et Carl Hardy. Donc, ça va être intéressant parce qu'on va avoir une belle discussion pas scénarisée. Là, on va arriver là vraiment avec qui on est puis chacun nos perceptions, nos backgrounds. Ce que je trouve le fun, c'est que c'est vraiment sincèrement authentique. Je le sens vraiment dans la... dans la mission de cette journée-là d'offrir. Puis, il n'y en a pas beaucoup, des choses comme ça. J'espère qu'ils vont en avoir plus. Donc, ça m'a fait très, très plaisir quand ils m'ont invité. J'ai pas hésité du tout.
Bien, alors, moi, je pense que je lance le message parce que je connais bien Hubert et Eve. Alors, je lance le message à Hubert et Eve que cette journée devienne un rendez-vous à chaque année et que ça soit notre journée qui fait du bien. Je lis juste ça demain, pas du tout de pression. je lance la discussion là-dessus. Est-ce qu'il y a un projet que tu aimerais développer prochainement ou là, présentement, c'est vraiment le bien avec mon corps qui prend tout?
C'est vraiment bien avec mon corps parce que on a vraiment besoin de soutien. Soutien financier, mais de soutien de la communauté. Donc, mon objectif en ce moment, c'est toute mon énergie, je la mets vraiment à ce qu'on se fasse connaître davantage. Ultimement, rejoindre le plus de jeunes possible. Donc, c'est vraiment, vraiment ça, mon projet actuel. Donc, j'en ai déjà pas mal de projets. Mon chum te dirait que j'en ai assez. Mes enfants aussi. Donc, je mise vraiment là-dessus.
Ouais, moi, étant nouvellement maman, j'ai un petit gars de 17 mois maintenant, puis juste ça, je vois une nouvelle réalité, parce que moi, je vis avec mon corps et je gère mes émotions face à ça, mais j'ai une nouvelle réalité où je me dis comment je suis face à ça, avec lui, va l'amener aussi à se développer puis j'espère de façon positive,
oui.
En tant que petit gars aussi, la façon comment il se voit, mais aussi comment il traite les filles face à ça. En tout cas, ça vient me prendre, ça. C'est un gros mandat et c'est super important pour moi que ce genre d'organisme-là existe justement pour qu'il y ait les outils pour bien comprendre. En terminant, Stéphanie, je veux savoir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer?
Femme forte, oui, mais authentique. Authentique. Moi, c'est beaucoup l'authenticité qui fait que tu peux être dans un domaine totalement à l'opposé du mien, être une femme vraiment très différente de moi, mais être habitée par une soif d'authenticité, une espèce de drive qui fait que, dans le fond, on décide, de par nos compétences puis notre personnalité, de porter, pas dans une cause, mais en tout cas, qu'importe, mais un intérêt ou une passion. Ça peut juste donner du bon dans ce temps-là. Fait que moi, une femme de fer, c'est ça. Je trouve ça intéressant parce que je suis entourée de femmes plutôt fortes, tout ça. Je trouve ça super inspirant. Fait que là, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, les gens qui vont t'entourer, tout ça va découler de quelque chose de très, très authentique et très fort. Fait que ça peut juste donner des belles affaires, des bonnes affaires. Puis c'est absolument ça que ça fait, tu sais.
Absolument. C'est extrêmement puissant. Fait que j'invite toutes les femmes de fer à aller voir bien avec mon corps et à t'encourager dans ce projet-là qui est super important pour nous et pour nos enfants. C'est un super beau projet. Merci beaucoup de mettre ton temps là-dessus. C'est vraiment génial. En terminant, on te contacte via Instagram, Facebook. Comment ça fonctionne?
Oui, ça peut être Instagram, Facebook, le site Internet aussi. Moi, j'ai ma page Facebook aussi, Dr. Stéphanie Léonard. Donc, tout ça rentre chez nous. Il n'y a pas de compartiment. Tout me rejoint. Donc, oui, j'invite les gens, commentaires, questions, interrogations, goût de s'impliquer. Tout ça, oui, définitivement, ça va me faire super plaisir.
Génial. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ton temps aujourd'hui.
Merci à toi pour l'invitation.
Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.